auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans ce libre journal des amitiés françaises. Je rappelle que nous avons la chance d'avoir Laurent au standard pour prendre vos messages. Surtout, n'hésitez pas, nous serons heureux de les proposer à notre invité. Je rappelle à cet effet le courrier électronique de la radio, courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou par téléphone 01 46 51 0085, 01 46 51 0085. Surtout, n'hésitez pas à solliciter Laurent, il sera heureux de répondre à vos demandes. Nous abordons maintenant donc la deuxième partie de cette émission, toujours en direct. Depuis 30 ans, une association de chercheurs venant d'horizons différents et qui estime urgent et important de se pencher sur l'étude du fait religieux dans une société sécularisée comme la nôtre, se réunit annuellement en université d'été et publie des actes de ces universités d'été. Et il y a une université d'été qui vient de se produire, donc en juillet 2025, qui était particulièrement intéressante. Je vous recommande la lecture des actes aux auditeurs de Radio Courtoisie. J'en rappellerai bien sûr les coordonnées. Eh bien, cette université d'été, juillet 2025, s'est tenue dans un lieu qui est assez mystérieux, en tout cas un lieu qui est méconnu, mais dont l'histoire est à la fois riche et importante. Alors ce soir, justement, le thème de l'émission sera consacré aux actes de cette université d'été, hein, de ce mouvement, hein, de ce carrefour d'histoire religieuse, et sera d'autre part consacré à ce monastère bénédictin qui est extrêmement intéressant, qui est une histoire donc très, très riche et qui mérite effectivement qu'on la découvre. Il y a dans l'histoire religieuse, puisque le carrefour d'histoire religieuse, son objet, c'est d'étudier, entre autres, cette histoire religieuse. Il y a dans l'histoire religieuse, comme vous le savez tous, des phénomènes importants, dont ceux des schismes et des séparations. Schismes et séparations qui, à leur tour, provoquent maintenant une tentative de réparation en un chemin vers l'unité. Et le thème, justement, de cette dernière université d'été était de s'intéresser aux relations entre l'Église romaine et les églises orientales, dont l'Église orthodoxe russe. Et donc, ils ont publié un certain nombre d'actes de cette université d'été, d'exposés qui ont été présentés autour de ce thème, de l'œcuménisme, effectivement, de la réconciliation, en quelque sorte, du chemin vers une nouvelle unité entre les églises orientales séparées de Rome et l'église romaine. Et ces actes s'intéressent tout particulièrement à l'histoire unique de l'endroit où s'est tenu ce colloque, cette abbaye de Chèvetogne, c'est en Belgique, en Wallonie. C'est un lieu unique parce que justement les moines bénédictins, depuis la création de cette abbaye, c'est un anniversaire, c'est un centenaire, puisque l'abbaye a été créée en 1825 sur effectivement un rythme très particulier, unique, puisque les moines bénédictins y prient et dans le rite oriental et dans le rite latin. Et c'est une abbaye dont l'histoire et l'objectif est tourné effectivement vers une unité à reconquérir. Et c'est tout le thème de notre émission ce soir. Et nous recevons l'un des membres éminents effectivement de ce carrefour d'histoire religieuse qui a participé à cette université d'été, qui en a fait un certain nombre d'exposés qui sont publiés dans ces actes. Alors je vous donne les références, hein. C'est le titre de la publication qui regroupe donc tous ces exposés à l'abbaye de Chèvetogne, c'est Orient Occident, c'est sous la direction de Bruno Bétoire et de Marie-Anne Vanier. Et donc ça expose effectivement tout ce qui a été dit lors de cette université qui s'est tenue entre le 14 juillet et le 17 juillet 2025, et c'est publié par les Cahiers du Littoral. Donc nous allons parler effectivement ce soir en compagnie de notre invité, de tout ce qui s'est dit, d'intéressant, de particulièrement intéressant sur l'unité entre les orthodoxes et les catholiques romains, et puis aussi toute l'histoire exceptionnelle, vraiment extraordinaire, de ce monastère bénédictin qui, depuis 100 ans, prie au rythme d'un monastère bénédictin, mais dans deux rites différents, un rite oriental et un rite latin. Alors nous avons, vous l'avez compris, je pense, chers auditeurs, le plaisir de recevoir Marianne Vanier pour évoquer à la fois effectivement tout ce travail d'œcuménisme et et l'histoire de ce monastère aux caractéristiques vraiment uniques. Marianne Vanier, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct pour évoquer à la fois cette université d'été Orient-Occident et évoquer ce monastère bénédictin extraordinaire, il faut bien le dire, qui est l'abbaye de Chevetogne, donc en Wallonie, en Belgique. Je rappelle aux auditeurs qui vous connaissent bien, parce que nous avons eu le plaisir de vous recevoir à plusieurs reprises, que vous êtes théologien, vous êtes professeur d'université à l'université de Lorraine. Vous avez été aussi rédactrice en chef de la revue Connaissance des Pères de l'Église. Et vous êtes aussi membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez publié sur ces thèmes, d'ailleurs, c'est vraiment votre spécialité, de nombreux ouvrages. Certains ont fait l'objet, d'ailleurs, pour notre plus grand plaisir, effectivement, d'émissions. Alors, je rappelle que nous avions reçu récemment, d'ailleurs, pour votre livre « Hildegard de Bingen, une visionnaire et une femme d'action », que vous avez publié aux éditions Entrelacs. Ça, c'était en 2016, mais on doit le trouver. Cet ouvrage qui est épuisé, mais on doit pouvoir le trouver sur les sites de livres d'occasion. Et puis, je cite aussi Saint-Augustin, la conversion en acte. Et puis encore, ce livre pour lequel nous avions reçu par deux fois, d'ailleurs, Découvrir les Pères de l'Église, nouveau manuel de patristique. Ça, et c'était en 2024, c'est publié aux éditions Artege. Et puis vous venez de publier tout récemment, dans la même lignée, Lire les Pères de l'Église, nouvelle anthologie patristique, donc toujours chez Artege, en 2026. Et sans trahir de secret, ça fera l'objet, cette nouvelle publication fera l'objet d'une émission en votre compagnie, je crois, Marianne Vanier, je pense que c'est prévu au mois d'avril, hein. Vous allez revenir.
En peut-être avril. La veille des rameaux, ça doit être le 21.
C'est ça, voilà. C'est ça. C'est le jour des rameaux même. C'est le jour des rameaux, c'est le dimanche. Oui. Le dimanche des rameaux, donc ça tombe parfaitement parce que les Pères de l'Église, effectivement, ont écrit un certain nombre de choses sur cette grande fête chrétienne. Et donc ce soir, vous venez, Marianne Vanier, nous parler à la fois de ce colloque, de cette université d'été, du carrefour d'histoire religieuse dont le thème effectivement est consacré à l'œcuménisme, à cette relation entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Université qui s'est tenue dans cet endroit très particulier, vraiment exceptionnel, extraordinaire, qui est celui de l'abbaye de Chevetogne, donc en Belgique. Alors, je vous propose tout d'abord de nous dire ce que c'est que le carrefour d'histoire religieuse, dont vous êtes un membre éminent, bien sûr, et quel est son objectif, quels sont ses membres, et puis évoquer le thème de cette université d'été, donc de juillet 2025, qui était consacré donc à l'œcuménisme, entre, c'est peut-être pas la bonne expression, mais ça revient un peu à ça quand même, entre catholiques et orthodoxes. Ça sera l'occasion pour vous aussi de nous rappeler cette histoire entre la religion, entre Rome en quelque sorte, et puis les orthodoxes, le schisme, les raisons du schisme et les conséquences du schisme, et puis là où on en est maintenant. Est-ce que ça vous convient?
Oui, tout à fait.
Ah, très
Le
bien.
Carrefour d'histoire religieuse a été fondé en 1992 par Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire, deux historiens qui justement ont écrit une histoire de la France contemporaine. Et la plupart des membres du Carrefour sont des historiens, mais en même temps, ce Carrefour est interdisciplinaire, donc il y a aussi des littéraires, des théologiens et un certain nombre d'autres. Le président actuel est Bruno Bettoir, tout du moins il a été président pendant 20 ans, de 2005 à 2025, et là, il quitte ses fonctions, mais tout en étant secrétaire du Carrefour. Et l'intérêt, c'est d'avoir chaque année une réunion qui dure 3 jours sur un thème précis. Et le thème retenu avait été l'œcuménisme. Et comme il y avait en même temps le centenaire du monastère de Cheftogne, on a vu que ce carrefour aurait lieu à Cheftogne sur le rapport entre Orient et Occident, parce que ce monastère unique, comme vous l'avez rappelé, depuis les origines, son fondateur Don Lambert Baudouin, en 1925, avait le souci de l'unité des chrétiens, pas du tout d'unionisme, mais une unité dans la différence. Et depuis une centaine d'années, ce monastère œuvre à l'unité entre Orient et Occident dans un dialogue en retenant ce qui est valable dans chaque tradition. Donc, vraiment un lieu très intéressant.
Pouvez-vous évoquer les membres de ce carrefour d'histoire religieuse? Hormis vous, bien sûr, et Bruno Bettoir, vous avez évoqué vous. Qu'est-ce qui
oui,
vous
ouais.
rassemble?
C'est-à-dire qu'il y a un noyau fixe du carrefour d'histoire religieuse, le bureau, le conseil d'administration, et en même temps, chaque année, en fonction du thème, des invités sur le thème précis. Et là, il y a eu des invités du côté de l'œcuménisme, mais en même temps, les historiens habituels aussi qui sont venus. Il y a eu Étienne Fouilloux qui, lui, a été plus rattaché au carrefour en fonction du thème. Mais on a aussi tout un ensemble d'autres personnes des différentes universités qui sont là.
Alors, le thème, donc, Orient-Occident, c'est bien sûr cet œcuménisme que vous évoquez, notamment entre l'Église romaine et les différentes églises d'Orient et orthodoxes. Et pourquoi l'œcuménisme, c'est important? Et comment le définiriez-vous? Quelle définition vous donneriez de l'œcuménisme?
Alors, si on prend déjà l'importance et ensuite la définition,
oui.
L'importance, c'est que d'une certaine manière, c'est un scandale que les chrétiens soient divisés, parce qu'il y a la prière du Christ que tous soient un, et vraiment l'unité et le témoignage aussi vraiment de l'authenticité chrétienne. Et l'œcuménisme, c'est un effort qui a été réalisé depuis la fin du XIXe siècle, il faut remonter à Léon XIII en particulier, pour que justement les différentes confessions chrétiennes reviennent à l'unité. C'est-à-dire que dans un monde où il y a un pluralisme religieux, chaque confession chrétienne a sa spécificité, mais la division fait difficulté. Donc, l'œcuménisme, c'est pour ramener l'unité. Alors, si on prend de manière plus précise, il y a eu le schisme entre Orient et Occident en 1054, avec les anathèmes déposés par les légats du pape à la basilique Sainte-Sophie de Constantinople le 16 juillet 1054, hein, et en particulier Humbert de Moyenmoutier, et la réponse du côté oriental, du côté du patriarche Michel de Cérulaire, hein, a été justement de jeter l'anathème sur les Occidentaux. Mais il y a eu aussi le sac de Constantinople en 1204 lors de la quatrième croisade, hein, et à partir de là, une séparation entre Orient et Occident. C'est vrai que cette séparation montait peu à peu au cours des siècles, et il n'y avait pas seulement des raisons religieuses, mais aussi des raisons politiques qui sont intervenues. Et ce qu'il y a eu ensuite, de manière tout à fait prophétique, c'est que le pape Paul VI a levé ses anathèmes le 7 décembre 1965, et il y a eu ensuite l'anniversaire des 50 ans, et on vient de vivre l'anniversaire des 60 ans avec Monseigneur Job Getcha et le cardinal Kurt Kohr, pour justement montrer que là, le rapport entre Orient et Occident était plus du côté de l'union. Alors la séparation, si on prend les deux motifs qui avaient été avancés, c'était essentiellement le motif de l'infaillibilité pontificale et celui du filioque, c'est-à-dire la procession de l'Esprit Saint, l'ajout qui avait été fait à la suite de Concile espagnol sur la demande de Charlemagne, ajout dans le Credo, comme quoi l'Esprit Saint procéderait du Père et du Fils et non pas du Père seul, hein, comme cela se trouve dans la confession de foi du Concile de Nicée, ou plus précisément sa ratification à Chalcédoine, ce qu'on appelle le Credo de Nicée-Constantinople. Donc ces deux motifs faisait difficulté, et ce n'est pas la question n'est pas résolue, mais déjà les anathèmes sont levés, tout un travail théologique se fait, et justement à partir du geste prophétique du pape Paul VI, il y a eu une commission théologique mixte orthodoxe catholique qui s'est mise en place, ensuite tout un dialogue qui s'est réalisé, et aujourd'hui, la question du filioque est en cours de résolution. Et on voit que le pape Benoît XVI, lorsqu'il est allé célébrer l'anniversaire du Concile de Nicée sur les lieux mêmes, a récité le credo avec les autres représentants des confessions chrétiennes, sans le filioque. Et le 14 septembre, aussi à Saint-Paul-hors-les-Murs, il a récité le credo, cette fois plus dans sa version grecque, mais dans sa version latine, sans le filioque, ce qui est aussi une avancée comme telle. Et justement, à Shefton, le credo est récité sans le filioque.
Alors, vous avez l'impression de nous parler de ce mystérieux. Chetan, j'aurais quand même quelques questions à vous poser sur ce qui différencie les églises orientales des églises occidentales, ces fameux anathèmes. Et puis, on a bien compris, hein, qu'il y avait deux différences qui avaient provoqué ce schisme. D'une part, l'infaillibilité pontificale. Mais je croyais que cette infaillibilité pontificale était un dogme très tardif du 19e siècle. Alors là, nous sommes au
Vous
XIe siècle, donc comment ça a pu provoquer un tel problème à une époque où apparemment ça n'était pas un dogme? Question candide,
avez raison.
pardonnez-moi.
En fait, oui, vous avez tout à fait raison, parce que le dogme a été défini à Vatican I. Mais comme on l'a vu, c'était un mélange de questions religieuses et de questions politiques. Et c'était surtout qui va avoir la primauté et aussi par rapport au patriarcat, parce qu'il y avait les cinq patriarcats qui étaient égaux et tout d'un coup le patriarcat romain prend une place plus importante. Donc là, une difficulté, mais c'est aussi l'Occident qui veut l'emporter sur l'Orient.
C'est une question donc d'ordre politique, mais pourtant, il y a maintenant cette question qui se pose, puisque c'est un dogme, et c'est l'infaillibilité pontificale donc, qui concerne le patriarcat, la primauté du patriarcat de Rome, qui ne peut pas se tromper sous certaines conditions. Ça demeure, c'est un problème qui demeure. En revanche, ce que vous dites, c'est que le filioque, donc cette formulation particulière du credo, c'est quelque chose qui était en voie de résolution, c'est ça.
C'est-à-dire, la question est plus complexe
Bon.
parce que si on reprend
Oui.
le filioque, en fait, on ne le trouve pas dans la version originale du credo. Or, le credo défini par un concile qui a une valeur de vérité universelle ne peut être modifié que par un concile. Or, là, qu'un pape, sur la demande d'un empereur, fasse un ajout, ce n'est pas légal. C'est-à-dire, sur le plan du droit canonique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'autre
Pardonnez-moi,
part,
c'est Charlemagne qui a imposé ça au pape de l'époque, en quelque sorte. Et
oui, mais il y avait déjà des avancées, parce qu'à chaque fois, quand quelque chose arrive, il y a des préparations, mais c'est quand même là le fond du problème. Et dans la version grecque du Credo, il n'y a jamais eu le filioque. Il n'y a que dans la version latine. Donc,
Ah,
je dirais que.
pardonnez-moi, excusez-moi, je vous interromps, mais c'est un sujet qui est passionnant et qui est important de bien comprendre, si vous le voulez bien, Marianne Vanier. Dans la formulation latine actuellement du filioque, quelle est-elle? Quelle est-elle, donc en français, hein, que dit-on,
Oui,
qui correspond au
l'esprit
filioque,
saint.
et quelle est la version originelle, si je puis dire? Et
La
pour bien
version
comprendre les
originelle.
différences.
Bon, c'est-à-dire que le problème de fond, c'est un problème que personne ne peut percer. C'est-à-dire quelle est l'origine du Fils et de l'Esprit Saint par rapport au Père. L'origine du Fils, c'est pas difficile, c'est un Fils, il est engendré. D'accord. Pour l'Esprit Saint, c'est beaucoup plus difficile. Et personne n'est allé voir à l'intérieur de la Trinité comment l'Esprit Saint vient du Père. Or, là, la question, c'est que dans la version originaire du Credo de Nicée, qui a été reprise au Concile de Constantinople, consacrée à l'Esprit Saint, donc on est en 325 à Nicée, Constantinople 381, et la version finale à Chalcédoine en 451, c'est dit que l'Esprit Saint procède du Père. L'Esprit Saint vient du Père. Et l'ajout du filioque, c'est qu'il vient du
Du
Père
fils,
et du
du
Fils.
fils.
Et c'est pas neutre, parce que si on dit qu'il vient du Père, bon, le Fils est engendré par le Père et l'Esprit Saint vient du Père. Ils ont des rapports d'origine différents par rapport au Père, mais ils sont égaux. Or, dans la Trinité, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu. Si on dit que l'Esprit Saint vient du Père et du Fils, ben ça devient difficile parce que le problème, s'il vient du Père et du Fils, ben il est inférieur au Père, il est inférieur au Fils. Et comme on a tendance à le représenter comme une colombe, ben là, on a des représentations dans l'art que le Père et le Fils sont égaux, des fois ils sont représentés comme deux Christ, la colombe les relie, mais finalement, l'Esprit Saint risque d'être inférieur aux deux autres. Donc, il y a là toute une difficulté qui intervient. Et je dirais, il y a eu un petit mot qui a été ajouté. Et Charlemagne n'était pas un grand théologien devant l'Éternel. Donc, lui a fait ajouter cela sans certainement très bien savoir de quoi il s'agissait. Mais après, il y a des conséquences. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que le pape Jean-Paul II a demandé en 1995 une clarification sur le filioque. Et c'est l'un des moines de Chefton, le père Emmanuel Lannes, qui a écrit cette clarification. Et il a fait un travail remarquable en reprenant les éléments historiques, les éléments linguistiques, parce que en grec, l'ekphorosis, ça veut dire le souffle de la bouche du Père, c'est pas la même chose que la processio en latin. Donc là, il a vraiment fait un travail grammatical important et aussi tout un travail théologique. Et ensuite, la question a été reprise aussi par la conférence épiscopale des évêques d'Amérique du Nord pour approfondir cette question. Et les commissions théologiques ont travaillé aussi, donc vraiment là une avancée.
Mais pensez-vous que, alors on découvre effectivement à travers cette histoire du filioque les conséquences graves, en effet, qui ont amené au schisme, et puis le chemin de restauration, en quelque sorte, qui a été initié par notamment Jean-Paul II, et on découvre effectivement le rôle important, méconnu, de Chevetogne, qui a expliqué effectivement, qui a analysé, qui a raconté l'histoire, qui analyse, etc. Ce filioque. Est-ce que cela veut dire qu'il pourrait y avoir une évolution du credo, justement, chez les catholiques romains, dans le sens où
Tout
on
à
pourrait
fait.
revenir à une expression antérieure à celle que voulue par Charlemagne? Est-ce que ça serait quelque chose qui serait possible?
Oui, bah, c'est-à-dire que là, il y a déjà eu une modification dans le credo. On a ajouté le terme de consubstantiel, hein, et cela en vue du 1500e anniversaire du Concile de Nicée, où l'élément essentiel du Concile de Nicée de 325, c'était de dire que le Fils est homoousios au Père, c'est-à-dire de la même essence que le Père. En d'autres termes, que le Fils est égal au Père. Parce que Arius disait que le Fils ne serait qu'une créature, qu'il serait inférieur au Père. Donc là, on a mis le terme consubstantiel. C'était pas un ajout, c'est une question de vocabulaire à la place du terme de même nature pour montrer cette importance du Concile de Nicée. Et revenir à la version originaire du credo, sans le filioque, c'est tout à fait possible. Et apparemment, le pape Léon XIV s'achemine vers cela, parce que dans le petit texte préparatoire à l'anniversaire de Nicée, Inunitate Fidei, ben justement, il propose la version originaire du credo sans le filioque, qu'il analyse comme tel. Donc on voit qu'il y a tout un travail qui est fait, qui est relayé, et en fait, il y a un pape qui est ajouté, donc un pape qui peut retirer, mais normalement c'est un concile œcuménique, mais on ne va pas réunir un concile œcuménique pour revenir à une version originaire du credo, parce que c'est pas une modification.
Et pourquoi il n'y aurait pas de concile œcuménique, justement, pour arriver à cela, vu l'importance de l'enjeu, qui est
Bon,
l'unité?
ça serait, oui, c'est tout à fait possible, mais
Ça vous
un
paraît
concile œcuménique,
oui, ça vous paraît disproportionné, non? Ça vous...
c'est pas disproportionné, mais il faut le réunir et
C'est ça.
ça pose quand même une mise en œuvre de beaucoup de force pour le réunir.
C'est important que vous nous expliquiez tout ça, Marie-Anne Vanier, parce que d'abord, c'est notre histoire chrétienne, et pour bien comprendre, en effet, les différences. Et puis aussi, ça nous permet de comprendre, grâce à cela, l'importance du rôle du monastère de Chevetogne, qui a été.
Alors, sinon, juste une petite précision
Oui?
par rapport à l'infaillibilité, c'est que le pape Jean-Paul II, dans l'encyclique Utunum Sint, a justement repris la question en disant que si c'était un obstacle pour le dialogue œcuménique, il était prêt à réfléchir sur la question. Et les papes suivants également. Donc, je dirais, la question est aussi débattue.
Mais alors, réfléchir à la question de, effectivement, de l'infaillibilité, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est-à-dire l'abandonner? Ou la rénover
si on prend... Non, mais si on prend justement l'infaillibilité pontificale, ben, elle n'est intervenue qu'une fois dans l'histoire, hein, et pas de manière constante. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit un obstacle. Il faut bien situer les problèmes dans leur contexte. Donc là, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut envisager de manière sereine dans le dialogue œcuménique.
Et Chevetogne, là-dessus, a réfléchi sur ce sujet-là particulièrement. Les moines de cette abbaye ont travaillé sur ce concept, justement, d'infaillibilité pontificale. Non, ce n'est pas. C'est surtout sur le filioque, hein, qu'ils sont intervenus.
Oui, et puis d'autres points, parce qu'ils essayent justement de voir toute la question du dialogue œcuménique, la conception de l'Église, la communion ecclésiale, la liturgie. Il y a vraiment énormément de domaines.
Tout sujet que vous abordez, hein, d'ailleurs, hein, dans ce livre, hein, publié au Cahier du Littoral, qui regroupe les actes donc de cette université d'été du Carrefour d'Histoire Religieuse au monastère de Chevetogne en juillet 2025, où on découvre tous les progrès, toutes les avancées, hein, qui ont été faites dans ce domaine, dans le domaine de l'unité entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Et on y découvre aussi le rôle très important joué par cette abbaye et puis par ces moines dont le fondateur, nous allons bien sûr avec vous évoquer, si vous le voulez bien, Marie-Anne Vanier, maintenant, donc l'histoire de cette abbaye. J'avais une dernière question à vous poser sur justement cette relation entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Donc on a compris grâce à vous les raisons qui ont mené à ce schisme, de raisons principales, donc dans le credo, le filioque, et puis la primauté de Rome, du patriarcat de Rome, fondée sur l'infaillibilité pontificale. Mais l'Église orientale et les Églises orthodoxes, il y a aussi plusieurs patriarcats. Il y a Constantinople, il y a Moscou, et puis il y en a d'autres encore, j'imagine. Comment ça se passe entre ces différents patriarcats? Est-ce qu'il y en a un qui a la main sur les autres? Ou est-ce qu'ils s'entendent sur tout? Ou au contraire, ils ont aussi leur travail d'œcuménisme à faire entre eux?
Oui, alors, la question des patriarcats est à la fois une question historique et une question actuelle. Hein. C'est-à-dire, la question historique, c'est qu'au départ, il y a les cinq patriarcats, Constantinople, Antioche, Jérusalem, Rome et Alexandrie. Et ensuite, il y a les patriarcats de l'Église orthodoxe comme telle et le patriarcat de Constantinople. D'une certaine manière, une primauté d'honneur dans la mesure où il est le plus ancien, parce que c'était le rapport entre Rome et Constantinople. Donc, c'est le patriarcat le plus ancien. Il y a le patriarcat de Moscou qui s'est développé ensuite, et il y a aussi d'autres patriarcats qui sont intervenus, mais là, on a les deux patriarcats, Alexandrie et Moscou, qui ont chacun un rôle important dans l'Église orthodoxe. Et il y a après une communion entre les Églises qui intervient.
Il y a des différences de dogmes, de rites, qui sont manifestées au cours des siècles depuis le schisme entre ces différents patriarcats, et comment sont tranchées les questions d'ailleurs? Parce que nous, dans l'Église d'Occident, on peut dire que c'est Rome qui tranche, hein, parce que l'autorité est à Rome, mais dans la religion orthodoxe orientale, avec ces patriarcats, il y a certainement oui, des différences d'interprétation. Qui tranche, hein?
C'est-à-dire que c'est un peu difficile parce que les églises sont, comme on dit, autocéphales. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une autonomie de chaque église. Hein. Donc, c'est le patriarche qui est responsable. Mmh. Et il y a quelques années, il y a eu un essai pour réunir un concile panorthodoxe pour justement voir comment avoir une autorité unique, un gouvernement unique, différencié par rapport au pays. Et malheureusement, ça n'a pas abouti. Et c'est toujours l'idée d'avoir cette unité dans la diversité. Sinon, c'est beaucoup plus une question locale, c'est-à-dire une question de langue, une question de coutume. Et autrement, sur un plan théologique, il y a une unité comme telle. Mais la différence, c'est beaucoup plus au niveau national. C'est plus des églises qui sont liées à un peuple, à une culture comme telle.
Alors, je vous propose, si vous voulez bien, Marianne Vanier, que nous en revenions aux pages de ce colloque, de cette université d'été qui s'est tenue donc en juillet 2025 au monastère de Chevetogne. Le livre que vous publiez, ça s'est intitulé « Orient-Occident ». Souhaitez-vous nous présenter les thèmes principaux de ce recueil ou voulez-vous que je fasse un relevé de la table des matières? Et puis après, nous allons rentrer dans l'histoire, bien sûr, hein, c'est très important, puisque tout le début de ce recueil est consacré au centenaire de cette abbaye, de ce monastère extraordinaire qui est celui d'Amé Chevetogne et du rôle qu'il a eu dans l'Union, justement.
Oui, en fait, comme vous le dites, il y a vraiment un certain nombre d'articles pour le centenaire de Chevetogne, d'autres articles sur l'église arménienne, sur l'église érythréenne, sur l'influence aussi des pères latins ou des pères grecs dans tel ou tel pays, hein. Et après, des synthèses sur les églises orientales, sur le dialogue œcuménique, vraiment une diversité pour essayer de traiter le sujet de la manière la plus approfondie possible, dans la mesure où on le peut.
Alors vous publiez ce colloque, donc les actes de ce colloque au cahier du littoral. Qu'est-ce que c'est que les cahiers du littoral?
Mais en fait, les carrefours d'histoire religieuse sont liés à l'Université de Lille. Mmh. Et c'est l'instance de publication de l'université comme telle.
D'accord. Pourtant, on est loin de la mer, voilà. À Lille. On n'est pas au bord de la mer. Hein.
Oui, oui. Lille. Non, ce n'est pas exactement, mais bon. Là, c'est les presses universitaires qui publient. Parce qu'il y a une habitude de publication et les collègues justement de Lille ont eux-mêmes leur instance de publication. Voilà, sinon il n'y a rien de spécifique. Et je pense que ça a été défini peut-être par Gérard Cholvy, peut-être par Christian Sauré aussi, ou bien par d'autres, mais on voit qu'il y a ici un ancrage du côté de Lille. Et d'ailleurs, Monseigneur Florin aussi avait soutenu le carrefour d'histoire religieuse à son origine.
Alors je vous propose, Marianne Vanier, que vous évoquiez justement le centenaire, hein, c'est tout le début effectivement de ces actes, le centenaire de ce monastère atypique, hein, ce sont les termes que vous utilisez, d'Amé Chevetogne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette histoire de 100 ans.
Oui, alors c'est quelqu'un de génial, de prophétique, dont Lambert Baudouin, qui au départ s'est occupé du mouvement ouvrier et qui très vite a été intéressé par l'œcuménisme et par la liturgie. Et il se trouve que par un concours de circonstances, il a pu créer ce monastère original d'abord à Amay, en Belgique, et dans un ancien Carmel, puis à Cheftogne, où les locaux étaient plus grands, et où il a pu réaliser finalement de manière matérielle les choses avec une église byzantine sur la droite et une église latine sur la gauche, quand on regarde le bâtiment comme tel. Et là, on a eu aussi ce concours de circonstances qui s'est fait avec aussi l'appui du pape. Et là, vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'était une période d'ébullition, je dirais, comme telle.
C'était en 1925.
Oui.
Mais qu'est-ce qui a provoqué cette idée? D'où vient-elle exactement de créer ce monastère particulier d'abord à Amay, puis après à Chevetogne?
C'est-à-dire que le but, c'était d'essayer de voir comment réaliser l'union des églises. Et il y a eu le mouvement œcuménique qui s'est développé à la même époque. Et l'idée, c'était que les bénédictins, qui étaient une communauté ancienne reconnue par l'Église indivise, étaient tout à fait aptes à mener le dialogue avec l'Orient. Et justement, là, il y a eu la lettre Equidem Verba du pape qui a un peu cristallisé les choses et qui a permis à Dom Lambert Baudouin de réaliser ce monastère. Au départ, c'était difficile parce que il y avait tout à mettre en place. Et il y a eu aussi un peu le métropolite grec de l'Église ukrainienne, c'est difficile à prononcer son nom, Monseigneur Septici, qui avait donné l'idée. Il y a le Père Lev Gillet, il y a qui sera le moine de l'Église d'Orient, un certain nombre d'amis de Dom Lambert Baudouin qui l'ont aussi aidé. Et c'était par le monachisme, permettre un dialogue, c'est-à-dire recevoir les personnes dans la durée, dialoguer avec elles, et à partir de là, construire ensemble les voies de l'unité. Parce que le dialogue théologique est tout à fait intéressant et on arrive à des résultats importants. Mais vraiment de manière quotidienne, par le dialogue, par la liturgie, par la prière, il y a une autre rencontre qui se réalise et qui amène à une unité en profondeur. Et il faut voir aussi qu'à la même époque, il y a eu la fondation de l'Institut Saint-Serge pour la théologie orthodoxe avec la diaspora russe, mais à Chefton, il n'y avait pas seulement les Russes émigrés, mais c'était l'orthodoxie dans toute son ampleur qui était reçue, mais aussi les protestants, les anglicans, c'était vraiment là l'œcuménisme avec tous, et il se trouve que le cardinal Mercier, qui justement a apporté beaucoup avec les Anglicans, avec les conversations de Malines en particulier, a aidé aussi au début les moines du monastère de Cheftogne.
Mais concrètement, comment cela fonctionnait? Dans ce colloque que vous avez expliqué, dans les pages, les actes de ce colloque, vous expliquez que d'abord ça a été fondé à Amay, puis après ils ont déménagé, hein. à Chevetogne, où ce monastère existe toujours. Hein. Il y a une photo, d'ailleurs, c'est un très bel endroit. On peut aller aussi sur le site internet de ce monastère. C'est absolument un endroit qui semble magnifique. Hein. Vous y êtes allé, vous allez pouvoir confirmer ou infirmer. Mais quelle est l'idée de fonctionnement? Quelle est l'idée de départ? Et est-ce que cette idée de départ a évolué? Parce que vous nous expliquez, c'est un monastère, ce sont des bénédictins. Donc, ce sont des catholiques romains, mais qui ont une vocation particulière, hein, qu'ils ont ressentie, c'est de s'engager dans la réconciliation, dans l'unité, à travers une manière de pratiquer cet œcuménisme. Mais comment cela est-il mis en œuvre? Parce que l'abbaye actuelle, effectivement, il y a une église qui est dédiée au rythme catholique romain. Et puis il y a une église aussi qui est en rite oriental. Comment concrètement cela fonctionne-t-il? Est-ce que ce sont les mêmes moines qui participent à des offices, l'un orientaux, les autres romains? Est-ce qu'ils se partagent? Est-ce que c'est mélangé? Il y a des moines bénédictins et puis il peut y avoir des moines coptes ou des moines orthodoxes, puisqu'il y a aussi du monachisme naturellement chez les orthodoxes. Comment concrètement c'est bâti? Et puis ça a dû évoluer à partir de l'idée de départ.
Oui, il y a beaucoup de questions que vous
me posez. Oui, pardonnez-moi, nous sommes intrigués, Marianne Manier.
Oui. Bon, alors, déjà, c'est un très beau lieu. Le passage Amay-Cheftogne est assez simple parce que Amay était le lieu de départ trouvé par Don Lambert Baudouin, mais assez petit. Et Cheftogne, la propriété était beaucoup plus grande, donc permettait des bâtiments plus grands, un accueil plus grand, un parc. Donc là, je dirais, c'est sur un plan matériel, si on peut dire. Ensuite, pour ce qui est de l'organisation, la communauté est une, mais les moines choisissent soit le rite latin, soit le rite byzantin. Mais ils peuvent aussi, le cas échéant, au bout d'un certain temps, passer du rite latin au rite byzantin. Là, il y a une souplesse très grande. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vivent chacun, soit le rite latin dans toute son ampleur, soit le rite byzantin dans toute son ampleur avec les différents offices de la journée et la liturgie. Et trois fois par semaine, ils se réunissent pour une liturgie commune. Alors, c'est soit une liturgie byzantine, soit une eucharistie. Et le dimanche, c'est toujours une liturgie byzantine où il y a tous les moines qui sont réunis. Mais il n'y a pas, je dirais, de bricolage, prendre un petit bout du rite latin ou un petit bout du rite byzantin, mais vraiment... à la fois le rite latin, à la fois la divine liturgie, et vraiment dans toute la plénitude. Et ce qu'ils ont fait, c'est assez génial, parce qu'ils ont été les premiers à le faire, hein, c'est de traduire en français les offices byzantins. Et ça a été très précieux pour les orthodoxes également, parce que ce n'est pas seulement en grec, en slavon, qu'il y a les offices byzantins, mais aussi en français. Alors là, il y a eu toute une évolution parce que, bien sûr, la traduction, c'est tout un travail énorme d'une équipe. Hein, et il y a toujours des aménagements qui se font, mais ça a été vraiment un travail de fond et très apprécié par les orthodoxes et aussi par les catholiques pour comprendre aussi ce qui est dit, pour comprendre les hymnes qui sont très belles. Il y a eu aussi une étude de ces hymnes par le père Ingender en particulier, avec les fêtes, l'apport des pères de l'Église. Donc là, vraiment, il y a quelque chose de très intéressant. Et si quelqu'un séjourne à Cheftogne, soit un orthodoxe peut découvrir... la liturgie latine et un catholique peut découvrir la liturgie byzantine. Et ça, c'est vraiment un apport et un apport spécifique. Alors, D'Alembert Baudouin aurait espéré fonder d'autres monastères, mais il n'a pas pu. Ça, c'est un peu dommage. Et il aurait voulu aussi fonder d'autres monastères à l'étranger, mais ça n'a pas été réalisable. Et c'est vrai qu'il y a tout un investissement parce qu'il y a la connaissance des langues qui est impliquée, le grec, le slavon, et il y a vraiment là un effort comme tel. Et au départ, les moines sont allés pour certains au Mont Athos pour apprendre la liturgie byzantine, et il y a eu tout un échange qui s'est fait.
Oui, vous situez dans ce colloque, vous situez le Théodore Belpère qui est devenu moine à 44 ans. Il y a des vocations très tardives dans cette histoire, c'est très étonnant. Je ne sais pas quelle en est la raison. Donc Théodore Belpère a séjourné longtemps, plusieurs fois, au mont Athos. Il a vécu comme une véritable école de prière. Vous écrivez que les moines y ont tout appris, les langues anciennes, les rites, les usages, le chant, une autre culture monastique jusqu'à l'hospitalité. Même de l'Orient. Mais dans ce colloque, vous dites aussi que le fondateur, donc le père Baudouin, donc aurait bien voulu que d'autres monastères soient fondés, et notamment en Orient, un monastère oui. équivalent. Et ça, est-ce que c'est parce que ça aussi vous l'écrivez, est-ce que c'est dû à la méfiance que certains orthodoxes ont montré à cette fondation, une espèce de défiance à l'écart des prêtres catholiques latins pratiquant le rite oriental soupçonné de non-sincérité. Ce qui voudrait dire des débuts assez difficiles, finalement.
Bah, c'est-à-dire qu'il y avait toujours le soupçon d'unionisme. Et là, justement, D'Alembert Baudouin ne voulait pas du tout d'unionisme. Et il y a eu une question qui est intervenue parce que c'était un monastère atypique. Mais en même temps, beaucoup d'orthodoxes y ont séjourné. Et Olivier Clément, qui est une figure importante aussi, et il y a eu vraiment beaucoup de passages à Cheftogne.
Alors vous écrivez concernant donc D'Alembert Baudouin, le fondateur, le cuménisme consistait à se dégager des particularismes contingents pour s'élever à l'universel, à dépasser une diversité pour aller à l'unité essentielle. Est-ce que vous pouvez illustrer cette affirmation ? Parce que là, c'est un monastère qui vit la diversité, puisqu'il y a deux rites.
Oui, il y a la diversité des rites, il y a aussi la diversité des ethnies, parce que il y a, bien sûr, des Belges, des Français, mais aussi Italiens, Américains et beaucoup de passages. Donc, une très grande diversité, mais une diversité dans l'unité, c'est-à-dire pas du tout d'uniformité. Et là, c'est un apport sur un plan œcuménique parce que ce n'est pas du tout revenir au même dénominateur commun et le plus petit possible, mais justement une ampleur. C'est ça que D'Alembert Baudouin voyait l'universalité, parce que chacun est différent, reste différent, mais en même temps vit en communion avec les autres. Et il y a à la fois une unité personnelle, une unité communautaire, une unité ecclésiale, une sorte de dilatation du cœur, si on veut. Et c'est vraiment cela qui est envisagé en profondeur.
Mais ils sont tous moines bénédictins.
Oui.
Ils sont tous moines bénédictins, mais lorsqu'en quelque sorte ils rentrent au monastère, ils choisissent le rite qu'ils vont suivre.
Oui.
Et ils se retrouvent le dimanche.
Au bout d'un certain temps de formation, quand même.
Oui, non, mais bien entendu. Bien entendu. Et ils se retrouvent le dimanche, dans ce cas-là, pour des offices communs. C'est ça, le rythme. Mais ils partagent les repas.
La divine liturgie. Hein.
C'est ça. Et mais ils partagent les repas, et ils partagent les temps de réflexion, les temps de partage, etc. Quoi, c'est ça. Mais ils choisissent. Et vous, dans ce recueil, vous expliquez d'ailleurs que certains d'entre eux ont basculé vers l'orthodoxie.
Oui.
C'est très étonnant. C'est étonnant parce qu'on est plus dans une démarche œcuménique. Alors, et vous nous avez parfaitement expliqué ce qui différenciait les causes du schisme. Et le fait dont la manière dont on se rapproche, et on n'a jamais été aussi proche, on va en parler après la pause que nous allons faire d'ailleurs, parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, dont certaines très, très impressionnantes par nos récents papes, hein, notamment sur la reconnaissance des saints, des docteurs de l'Église, etc. Donc on a l'impression qu'on n'a jamais été aussi proche, visiblement. Puis il y a quand même des moines. Alors, sans doute séduit par la beauté des offices, j'imagine. Comment t'expliquer ça?
On ne peut pas donner toutes les raisons, dans la mesure où il y a le secret de chacun et l'itinéraire personnel. Hein. Mais par exemple, Louis Gillet, Lève Gillet, le moine de l'église d'Orient, était l'un des compagnons de Don Lambert Baudouin au départ. Hein. Et il est devenu orthodoxe.
Mais il a quitté le monastère.
Oui.
Ah oui.
C'est vrai qu'il y a une proximité avec l'orthodoxie. Et là, certains sont devenus orthodoxes, mais sont aussi restés en lien avec la communauté. Mmh. Et dans la communauté comme telle, aujourd'hui encore, il y a des moines orthodoxes qui sont là, mais qui vivent avec la communauté, mais en même temps qui sont orthodoxes. Donc, qui pour la liturgie vont aussi à Bruxelles pour la liturgie orthodoxe.
Alors, donc là, c'est une évolution de ce monastère. Au départ, ils étaient tous moines bénédictins. Maintenant, il y a des moines orthodoxes.
Et c'est-à-dire ils ne sont pas intégrés comme moines.
Ah, ils ne sont pas moines, d'accord.
Un séjour d'études, un séjour plus ou moins long.
Dans le cadre d'un partage œcuménique, en quelque sorte.
Voilà.
Mais avec une présence régulière. Vous mentionnez aussi ce qui a été, semble-t-il, décisif, c'est, il va falloir que vous fassiez une petite visite quand même du monastère, hein, de cet endroit. C'est très beau, on peut voir les photos sur le site. D'ailleurs, j'encourage les auditeurs de Radio Courtoisie à aller voir sur le site, notamment. L'église romaine est très belle, elle est plus sobre, hein, d'ailleurs, que l'église dédiée au rite oriental, hein, qui est couverte de fresques et d'icônes, comme les églises orientales, d'ailleurs. Et c'est l'acquisition d'une chapelle de Florence, avec une très belle iconostase. C'est peut-être l'occasion de décrire les lieux.
Ah oui, alors là, c'est autre chose. C'est-à-dire, il y a l'église latine, avec un Christ pontocrator, mais à la manière de la romance, si je puis dire. Mmh. Et pour l'église byzantine, il y a deux étages. Il y a la grande église byzantine, si on veut, avec les fresques, et au-dessous, une église byzantine avec l'iconostase qui vient de Florence, hein, qui sert pour la semaine, parce que l'église byzantine est un peu grande. Et donc là, c'est plus la chapelle de semaine pour les offices, pour la liturgie aussi. Les deux sont très belles. Et il y a aussi des fresques. Il n'y a pas simplement l'iconostase, mais aussi des fresques sur les murs. Hein.
Nous allons faire une petite pause, avoir un message de la radio à écouter. Et puis nous allons écouter une pause musicale. Stéphane est allé sur le site de l'abbaye de Chevetogne pour en extraire un chant. Un chant donc oriental, mais nous ne savons pas ce que c'est. Ce n'est pas expliqué sur le site. Donc nous allons l'écouter. Marianne Manier, il va falloir que vous nous expliquiez ce que nous avons écouté. C'est un test, c'est un examen. Voilà.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez. vous vous sentirez mieux.
Слушаю, Бога, Бога, Сухия, Вечу.
Il est impossible d'interrompre un aussi beau chant, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Je rappelle que nous avons le plaisir de recevoir ce soir en direct donc Marianne Vallier, qui est théologien, professeur à l'Université de Lorraine. Nous la recevons pour les actes de la 23e Université d'été du Carrefour d'Histoire religieuse, intitulée Orient-Occident, qui s'est déroulée dans ce monastère unique, vraiment unique, de Chevetogne, consacré justement à l'unité des chrétiens romains, catholiques romains et orthodoxes. Et dans cette première partie de discussion, Marianne Vallier nous a fait un résumé de ce qui nous séparait avec les orthodoxes. Et nous nous rendons compte à l'écouter que vraiment, maintenant nous sommes très, très proches. Et il nous a expliqué le rôle joué notamment par ce monastère de Chevetogne et son histoire, une histoire particulière avec Don Lambert qui, il y a 100 ans, en 1925, crée ce monastère avec deux rites, un rite oriental et un rite latin, tous des moines bénédictins et qui choisissent le rite qu'ils vont suivre pour justement permettre de se rapprocher entre orthodoxes et catholique romain. Alors, Marianne Vallier, quelle est cette air que nous ignorons, qui est chantée par ces moines bénédictins de Chevetogne? C'est splendide, ça nous transporte même.
Ah, c'est très beau. Hein. Justement, c'est... le prince Vladimir disait que la liturgie orientale, c'était un peu le ciel qui venait sur la terre. Mmh. Et c'est vrai. Et cet hymne, c'est « Souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume ». Et c'est vraiment un chant très doux qui manifeste toute la tendresse de Dieu, qui manifeste sa miséricorde pour tout homme, pour tout péché, aussi grave soit-il, hein, et toute la tendresse de Dieu. Et là, c'est vraiment un très beau chant.
Il le chante, là. Il est chanté en quelle langue?
En slavon.
Le slavon, c'est un vieux slave, c'est...
Oui.
C'est ça?
Oui.
C'est du vieux
oui,
slave.
Oui.
Alors, dans cette, les moines qui ont choisi l'église donc orientale de Chevetogne, ils chantent en slavon. Ils chantent aussi en français. Hein, c'est ce que vous nous avez expliqué, puisqu'ils ont traduit des chants en français. Ce sont les deux langues qu'ils utilisent
grec. Et en grec aussi.
Et en grec aussi. Ça veut dire qu'ils pratiquent tous cette langue. Ils ont un niveau intellectuel impressionnant pour être capable de chanter et comprendre. Oui. C'est sans doute aussi l'une des caractéristiques de ce monastère particulier. C'est sans doute le niveau intellectuel aussi des moines qui s'y trouvent.
Avec une très belle bibliothèque.
Qui est plus à savoir. Oui, parce qu'il va falloir que nous vous parliez. Mais j'ai des questions d'auditeurs, puis d'autres questions aussi à vous poser. Mais il va falloir évoquer les activités de ce monastère, qui sont importantes.
Parce oui, avec une revue Irénicon, qui est vraiment une très bonne revue, oui. À la fois sur un plan théologique,
oui.
Sur celui des actualités œcuméniques, la vie des églises, c'est remarquable.
Oui, nous allons parler, et puis il faudra parler des icônes aussi, parce que
oui.
Ils font aussi, ils peignent, enfin je ne sais pas comment quel terme exact, des icônes, notamment en bronze. Hein, c'est...
Oui.
Donc je fais beaucoup de questions, je ne sais pas si nous aurons le temps de tout aborder, Marianne Vallier, mais en tout cas, les auditeurs pourront aller voir le site de l'Abbaye de Chevetogne. Nous avons des messages, un premier message d'un auditeur qui vous remercie pour vos propos passionnants. Il précise qu'il y a un article qu'il ne comprend pas, c'est la communion des saints, qui peut être comprise aussi comme la communion des choses saintes, selon qu'on prend le génitif pour un masculin ou un autre pluriel. D'ailleurs, le credo de Nicée ne comporte pas cet article qu'on trouve dans la formule de Constantinople, dit-il. De plus, dans le dialogue interreligieux, j'ai toujours l'impression que le camp catholique actuel aime plus les autres qu'il ne l'aime en retour. Vous abordez ce point-là d'ailleurs, hein, dans le colloque, avec, dans toute la relation avec un métropolite russe qui aime les catholiques et aime Chevetogne.
Nicodime,
voilà, qui est mort dans les bras du pape Jean-Paul Ier. C'est incroyable cette histoire. J'envoie les auditeurs à la lecture du colloque et à la découverte de ce personnage hors norme qui est Nicodime et qui est venu effectivement plusieurs fois à Chevetogne. Donc ça, c'est pour la... Mais je vous laisserai bien sûr répondre. Donc, qui aime plus les autres qui ne l'aiment en retour. Et d'ailleurs, c'est valable, pas seulement avec les musulmans et les juifs. Beaucoup de patriarches ne sont pas allés à la rencontre de Léon XIV. Enfin, si j'étais orthodoxe, nous dit cet auditeur, rattaché au patriarche d'Istanbul, réduit aujourd'hui à une communauté de quelques milliers de Grecs sur place, je me poserais des questions sur les desseins de Dieu.
Oui, de fait, alors la communion des saints, c'est beaucoup plus le rapport entre l'Église de la terre et l'Église du ciel, parce que il y a une présence justement de ceux qui nous ont précédés, et c'est cette interpénétration de l'Église du ciel et de l'Église de la terre, et c'est pas matérialisable comme tel, mais c'est aussi toute l'idée de l'Église communion qui a été redécouverte par le Concile Vatican II, mais qui est l'ecclésiologie patristique. Les pères de l'Église voyaient l'Église comme communion, et communion des saints. On est tous appelés à la sainteté, comme le soulignait le Concile Vatican II. Donc là, quelque chose d'important. Alors ensuite, la question de réciprocité ou non dans le dialogue œcuménique, c'est toujours une question de fond. Et on ne sait pas exactement, parfois on a l'impression que du côté catholique, il y a plus... d'efforts qui sont faits, mais en même temps, il y a une réciprocité qui se fait, qui est parfois plus longue et qui demande de la patience, mais la réciprocité existe.
Et puis cette remarque qu'il faisait, si j'étais orthodoxe, rattaché au patriarche d'Istanbul, réduit à une communauté de quelques milliers de Grecs sur place, je me poserais des questions sur les desseins de Dieu. Qu'aimeriez-vous dire à notre auditeur ? C'est vrai que la situation des chrétiens en Turquie n'est pas enviable, hein, quand on voit l'évolution.
Le patriarcat de Constantinople ne se réduit quand même pas au fanard. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens en Turquie, mais le patriarcat de Constantinople concerne aussi la Grèce, où là, il y a beaucoup de chrétiens orthodoxes, l'Église orthodoxe grecque, avec le monastère des Météores en particulier, mais toute la Grèce, et aussi tous les orthodoxes qui sont dans le monde entier. Et à Paris, la cathédrale Bizet, c'est justement cette cathédrale qui est rattachée au patriarcat de Constantinople. Donc ce n'est pas simplement la poignée de chrétiens en Turquie, mais de manière beaucoup plus large.
Nous avons aussi un auditeur justement qui évoque les saints, qui nous dit que les saints dans la région catholique, notamment en France, c'est très important. Est-ce que c'est aussi important en Orient ? C'est sa question. Et ça me fait penser justement à un chapitre très intéressant des actes de ce colloque, hein, sur l'œcuménisme de la sainteté et la reconnaissance des martyrologues. Et la reconnaissance aussi de docteurs de l'Église qui sont orthodoxes et qui sont reconnus par l'Église catholique comme docteurs de l'Église. Je vous laisse évoquer cet aspect-là.
Oui, dans l'Église byzantine, il y a vraiment la vénération des saints qui est très importante, par l'intermédiaire des icônes, mais aussi dans la liturgie. Et pour ce qui est des saints reconnus par l'Église catholique, on peut penser à Saint Grégoire Narek, qui a été nommé récemment docteur de l'Église et qui est issu de l'Église arménienne. Et il y a vraiment là un point important. Et du côté orthodoxe, la sainteté, on a un effort qui est envisagé pour connaître les vies de saints, ce qu'ils ont apporté, comment ils ont envisagé les choses. Et c'est toute la question plus large encore de la divinisation. L'appel à la divinisation pour tous. Et les saints, chacun à leur manière, ont proposé un chemin. Et ces chemins sont très différents, mais en même temps convergent vers la conformation au Christ dans l'Esprit Saint. Et c'est aussi les personnes qui sont pneumatophores, qui portent l'Esprit Saint, qui sont animées par l'Esprit Saint.
Il y a ces martyrs coptes aussi qui ont été reconnus par ces martyrs coptes égyptiens qui ont été assassinés par les islamistes il y a quelques années.
Reconnu il y a peu de temps.
Et reconnu, oui, par l'Église catholique.
Et mis au martyrologue romain.
Oui. Je vous propose de revenir à Shelton et à nous raconter en quelque sorte ce qu'est ce monastère maintenant. Et leurs différentes activités. Combien y a-t-il de moines? Comment se répartissent-ils entre les deux rites? Font-ils face à des difficultés de recrutement, comme beaucoup de monastères maintenant?
Ils sont une vingtaine. C'est vrai qu'ils ont été plus nombreux avant. Un certain nombre sont morts récemment, et en particulier avec le Covid. Mais pour ce qui est de la répartition, c'est à peu près moitié-moitié. Pour ce qui est du recrutement, ben, comme toutes les communautés, il n'y a pas énormément de recrutement, mais des jeunes qui viennent et ben, ça se fait au fur et à mesure.
Hein. Oui, donc ça se maintient, quoi. Et leur vocation perdure. Comment ? Double question. Marianne Vanier, comment Shevetogne et en quoi Shevetogne, vous l'avez expliqué pour le filioque, oui, hein, sa contribution particulière, mais a-t-il d'autres exemples de contribution justement à l'unité de Shevetogne dans cette histoire, dans ce centenaire? Et maintenant, quelle est leur contribution propre? Maintenant qu'on est si proche, vont-ils disparaître le jour où on sera unis?
Non, ça peut être au contraire... un lieu d'accueil pour l'unité, parce que si l'unité intervient, et l'unité est toujours difficile à réaliser, ben, il y a une ouverture nécessaire et aller plus loin, donc pas de disparition comme telle, au contraire, un témoignage.
Mais en quoi ont-ils contribué? Autre que le filioque, très concrètement, y a-t-il eu des actes particuliers dont on peut dire, bien, c'est cette fondation, c'est Shevetogne qui est à l'origine de ça, ou au contraire, ils ont tout simplement créé un état d'esprit, un lieu d'échange favorable, amical, bienveillant entre les religions?
Alors, on peut prendre l'exemple du métropolite Nicodème, hein, qui était... le représentant des affaires étrangères religieuses du patriarcat de Moscou, et qui, grâce à des moines de Shevetogne, a envoyé des représentants russes au Concile Vatican II. Et ça a été un apport, une ouverture comme telle. Il y a eu des rencontres qui se sont faites à Paris, à Metz, à différents endroits, pour montrer l'importance de la présence orientale au Concile Vatican II, ce qui a ouvert justement le chemin de l'unité. Donc ça a été vraiment concret. Après, avec la revue Irénicon, il y a aussi... des articles qui sont publiés, des articles d'ouverture. On peut prendre un exemple, la commission mixte orthodoxe catholique, la Trinité qui est envisagée à partir de l'Eucharistie, et comment y a-t-il une communion qui va se faire pour l'Eucharistie, la présence de la Trinité dans l'Eucharistie, et là, un rapprochement qui se fait entre orthodoxes et catholiques. Alors, du côté orthodoxe, peut-être plus une immédiateté de la reconnaissance, et du côté catholique, je ne dis pas une découverte, mais une compréhension davantage en profondeur. Et l'écho de cette commission mixte orthodoxe-catholique qui a été relayée par Irénée Cohn a beaucoup apporté sur le plan œcuménique. Il y a aussi le lien avec les conversations de Maline pour le rapport avec les Anglicans. Et là, quelque chose d'important qui est intervenu. Il y a aussi l'origine de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le père Couturier, qui était oblat du monastère de Cheftogne.
Vous consacrez un chapitre de vos actes à cette grande figure, hein, le père Couturier.
Qui a écrit cet article. Et justement, là, un apport tout à fait original et qui dure encore aujourd'hui. La prière, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est vraiment le lieu de rencontre, un chemin commun qui se fait, une avancée solide qui intervient.
Marianne Vallier, quand on vous écoute, effectivement, on comprend que le rapprochement est très, très réel avec les orthodoxes, mais certainement beaucoup plus lointain avec les anglicans.
Oui et non. Oui et non.
Il vous reste une minute trente pour répondre à cette question.
Oui, on ne peut pas parler en quelques secondes. Mais les origines sont quand même différentes parce que du côté orthodoxe, le schisme, la séparation avec les anglicans, c'est avec Henri VIII et tout dépend... qui lui-même s'est éloigné du catholicisme pour être le chef de l'Église anglicane. Mais l'anglicanisme, tout dépend si on se situe dans la High Church ou dans la Low Church, parce que si c'est l'Église haute, elle est assez proche des catholiques, la Low Church est plus éloignée. Donc, tout dépend... de quel côté on envisage l'anglicanisme. Et là, il y a eu vraiment une avancée. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et aussi, Rowan Williams, l'ancien archevêque de Canterbury, a fait des séjours fréquents à Cheftogne encore ces dernières années.
Eh bien, Marianne Vanier, c'est sur ce futur rapprochement, peut-être avec les Anglicans, grâce à l'œuvre de Cheftogne, que nous devons malheureusement nous quitter. Merci beaucoup à vous d'être venu ce soir en direct sur la radio. Je rappelle Orient-Occident, les cahiers du littoral, les actes de cette université au monastère de Cheftogne. Merci à Stéphane à la technique, merci à Laurent qui a pris vos messages, chers auditeurs. Merci à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. N'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien. Un très bon dimanche soir à vous tous.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 22 février 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat. 75 016 Paris.